ce qui pouvait nous laisser aussi interpellés. On est marqué par la morosité ambiante, par le défaitisme. Et puis finalement, bien, c'est comme si on s'habituait un petit peu aux ténèbres. On devient même fataliste. On dit, bah, c'est comme ça, on n'y peut rien si on vit ces choses, etc., etc. C'est écrit. Et puis on se satisfait un petit peu de cette réalité négative qui pèse sur moi. Alors j'avais cette image, je pose une question ce matin. On est bientôt en hiver, c'est encore l'automne, les jours raccourcissent. Mais quel est un de vos premiers gestes, hein, lorsque vous rentrez chez vous le soir, qu'il fait nuit, et puis que vous allez entrer dans votre maison? Quel est un de vos premiers gestes que vous effectuez lorsque vous entrez dans cette maison? Dites-moi voir, qu'est-ce que vous faites? On allume la lumière. Ah, on allume la lumière. Alors je sais aussi que maintenant, il y a la domotique, hein, qui nous permet d'allumer la lumière avec notre smartphone, etc. Hier, avec les jeunes, j'étais tout content de leur dire, vous savez, j'ai vu Elon Musk là, qui nous propose des lunettes, je ne sais pas quoi, sur le visage, on voit tout. Et il y a une jeune qui me dit, mais ça fait longtemps que ça existe, hein. J'étais en retard au moins de 10 ans, hein. Elle sourit, Esther. Le pasteur, il n'est plus à la page, etc. Mais oui, en tout cas, on allume la lumière. Voilà, hein, chez moi, c'est encore avec un bouton. Voilà. Chez d'autres, vous avez votre engin, puis vous pilotez le chauffage, la lumière, le frigo, enfin tout ce que vous avez. C'est super. En tout cas, allumez la lumière. Et je crois qu'il en est de même dans le domaine spirituel. On va faire un parallèle ce matin, mais on a besoin d'allumer et de rallumer et d'encore allumer la lumière, plus que de confesser les ténèbres, le défaitisme, etc. Mais allumer la lumière. Et j'aimerais vous proposer ce matin un texte qu'on retrouve trois fois dans l'Ancien Testament. Il est très court, mais je pense qu'il va nous permettre ce matin, eh bien, d'allumer cette lumière spirituelle et puis de ressortir de ces lieux d'une autre manière. Alors, on va relire juste ces trois versets, et puis après, on les replacera dans leur contexte, hein, pour partager ce texte. Il est très simple. On peut commencer par Exode 15:2. On va essayer d'aller chronologiquement. Exode 15:2. Voilà ce qu'il est dit, et c'est le même texte qu'on va retrouver donc trois fois. Exode 15:2. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Wow, je dis, waouh, quand on proclame ça, c'est comme si on allait allumer la lumière. Hein. Deuxième texte, c'est la même pensée, c'est le psaume 118:14, qui va redire la même chose, dans un cadre différent, on le verra. L'Éternel est ma force, et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Deuxième fois. Et puis la troisième fois, c'est dans Ésaïe 12, au verset 2. Et c'est le même texte, la même proclamation, la même déclaration. L'Éternel est ma force, et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Bon, c'est un texte qu'on peut retenir pour la semaine, hein, pour le mois, pour l'année qui nous reste. Hein. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Et je me suis dit, en proclamant, parce que c'est une proclamation, quand on proclame ce texte, cette parole de Dieu, bien, c'est comme si on allumait la lumière. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Alors, on va revoir ce texte maintenant dans leurs trois contextes. L'Éternel est ma force. On va lire peut-être quelques passages d'Exode 15. Exode 15, hein, vous savez, c'est un cantique. Là aussi, hein, c'est un cantique. Il y a Myriam, la prophétesse, les tambourins, etc. Et puis, c'est Moïse et les Israélites qui chantèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je chanterai en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai, il est le Dieu de mon Père, je proclamerai sa grandeur. L'Éternel est un vaillant guerrier, son nom est l'Éternel. Il a jeté dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer des roseaux. Les vagues les ont couverts, ils se sont descendus au fond de l'eau, pareil à une pierre. Ta main droite, l'Éternel, est magnifique de force, ta main droite, Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère, elle les dévore comme de la paille. Tu as soufflé et l'eau s'est rassemblée, les courants se sont dressés comme une muraille, les vagues se sont durcies au milieu de la mer. L'ennemi disait, je les poursuivrai, je les rattraperai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie, je tirerai mon épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts, ils se sont enfoncés comme du plomb dans l'eau profonde. Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique, de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles? Tu as tendu la main droite, la terre les a engloutis, dans ta bonté tu as conduit, tu as racheté le peuple, par ta puissance tu le diriges vers la sainte demeure, les peuples l'apprennent, ils tremblent, la douleur s'empare des Philistins, les chefs d'Édom sont épouvantés, un tremblement s'empare des guerriers de Moab, tous les habitants de Canaan perdent courage, la terreur, la frayeur les surprendront. Devant la grandeur de ta puissance, ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. Tu les conduiras, tu les établiras sur la montagne de ton héritage, à l'endroit que tu as préparé pour ta demeure éternelle, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel règnera éternellement et à toujours. Oui. Les chevaux du Pharaon, ses chars, ses cavaliers ont pénétré dans la mer, l'Éternel en a ramené l'eau sur eux, alors que les Israélites ont marché à pied sec au milieu de la mer. Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins et en dansant. Myriam répondait aux Israélites, « Chantez en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. » Amen. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. On raconte cette histoire d'un professeur d'histoire qui n'est pas chrétien et qui, en arrivant à ce passage de la mer Rouge, est en train de se moquer, bien sûr, et puis il dit, bien, en fait, vous savez, finalement, la mer Rouge, c'était qu'un petit ruisseau, les Hébreux sont passés quand même, ils avaient de l'eau jusqu'aux chevilles, ils sont passés comme ça, et puis on en a fait toute une histoire, etc., etc. Et là, il y a un petit garçon, une petite fille qui lève la main et dit, mais alors, c'est un véritable miracle! Et alors le professeur est interpellé, ne comprend pas. Mais pourquoi c'est un véritable miracle? Je viens de te dire que ce n'est pas un miracle, qu'il y avait le sado et que les Israélites sont passés pratiquement à pied sec. Si, c'est un miracle. Et alors le professeur d'histoire dit, mais explique-toi pourquoi c'est un miracle. Eh bien parce que dans 20 cm d'eau, toute l'armée de Pharaon s'est noyée. C'est un miracle. Eh oui, c'était un miracle. En tout cas, hein, ce texte nous parle de la force de l'Éternel. L'Éternel est ma force. Dans le cantique qu'on vient de lire, il y a un langage qui est guerrier, bien sûr. Hein, il est question de chevaux, il est question de cavaliers, il est question de chars. Vous savez qu'à l'époque, sous Ramsès II, on pense que ça correspond à la période de Moïse. Eh bien, on dit que l'Égypte avait l'armée la plus puissante de toute son histoire. Elle avait à sa disposition des milliers de cavaliers qui étaient répartis sur tout le territoire, et c'était son fer de lance, ses troupes d'élite. Hein, ses chars et ses cavaliers étaient des troupes d'élite, etc. Et la Bible nous rappelle, eh bien, qu'en un instant, hein, toute cette armée qui faisait l'orgueil de Pharaon, eh bien, a été précipitée dans la mer. Tous ces cavaliers d'élite, ces chars d'élite ont été précipités. Hein, il y a ce langage, par exemple, au verset 1, il nous est dit ceci, « Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. » Versets 4 et 5, « Il a jeté dans la mer les chars du Pharaon et son armée, ses combattants d'élite. » ont été engloutis dans la mer des roseaux. Le verset 10 nous dit ceci, « Ils se sont enfoncés comme du plomb dans l'eau profonde. » Le verset 19 nous dit ceci, « Les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers, ont été pénétrés dans la mer. » Et puis le verset 21 nous dit ceci, « Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. » Une grande partie de cette armée, de Pharaon donc, par la force de l'Éternel, a été précipitée au fond de la mer. Comment, devant un tel miracle, ne pas chanter ? Hein, comment, là, à ce moment-là, le peuple de Dieu ne pas prendre les instruments dont il disposait dans cette marche et puis célébrer, chanter en l'honneur de l'Éternel ? Qu'en est-il pour nous aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui, dans ma vie, eh bien, peut me faire proclamer cette vérité ? L'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Je suis convaincu que ce matin, on pourrait tous venir ici et puis témoigner de quelques épisodes dans nos vies où l'Éternel, là aussi, bien, s'est occupé de notre ennemi, de nos ennemis, et puis il s'est glorifié. En tout cas, le parallèle, ce matin, nous pouvons proclamer qu'il nous a délivrés de l'esclavage du péché. Amen. L'Éternel est ma force, et je veux le proclamer, délivré de l'esclavage du péché. Je le dis souvent, où étiez-vous les dimanches matins avant de connaître Jésus ? Hein ? Moi, j'étais au fond d'un lit, j'étais un petit peu embrumé du cerveau, avec tout ce qu'on avait bu, donc la veille, etc. J'attendais midi, midi et demi pour me remettre un petit peu, et puis c'était le café de l'époque, le dimanche matin, etc. Voilà ma vie du dimanche matin. Vous avez peut-être une autre, mais ce matin, je bénis Dieu, parce que j'ai d'abord les idées claires, et puis bien, il m'a sauvé, il m'a délivré de l'esclavage du péché. Nous aussi, on est la mer rouge du salut qui s'est ouverte pour nous, bien entendu, et puis elle s'est refermée sur notre adversaire, l'ennemi de nos âmes. Désormais, nous n'avons plus rien à voir avec lui. Il n'y a plus de lien. Désormais, bien, on a un autre Père. L'Éternel est ma force. Et puis nous aussi, on a pu contempler sa puissance, je le disais tout à l'heure, dans nos vies, au travers de nombreuses circonstances. Alors, peut-être que ce matin, il est bon d'allumer ou de rallumer cette lumière de la force, de la toute-puissance de notre Dieu. L'Éternel est ma force. Amen. L'Éternel est ma force. Je veux allumer cette lumière. Hein, c'est un parallèle. Imaginez que vous soyez dans une belle salle de musée, il y a toutes sortes d'œuvres splendides, des tableaux, des sculptures, mais si vous n'allumez pas la lumière, vous n'allez rien voir. Vous n'allez pas pouvoir contempler. Il suffit d'allumer la lumière et là, vous contemplez des chefs-d'œuvre qui sont sous vos yeux. Et allumer la lumière ce matin dans la salle des promesses de Dieu, bien c'est la même façon. L'Éternel est ma force. Et je veux voir là aussi ses promesses, je veux réaliser ce qu'il a accompli dans ma vie. Il y a un psaume qu'on a du mal parfois à comprendre, c'est le psaume 68, verset 29. « Ton Dieu ordonne que tu sois fort. » Connaissez ce verset ?« Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Et on pourrait se dire, mais Seigneur, comment est-ce que dans ma vie, je peux vivre aussi cette force ? L'Éternel est ma force. Mais il y a quelques pistes de réflexion. La première, c'est dans Exode 17, verset 11. C'est ce moment où, vous rappelez, Josué combat Amalek dans la vallée. Il y a un combat. Et la Bible nous dit que sur la montagne, il y a Moïse. Et puis à côté, il y a Aaron et Hur. Il est dit ceci, quand Moïse élevait ses mains, alors Josué était le plus fort. Et quand il baissait les bras, par la fatigue, eh bien, Josué était en difficulté. Que vont faire Aaron et Hur ? Ça, c'est un autre programme, mais ils vont, alors Moïse, qu'est-ce que tu fais quand même ? Hein, tu es l'homme de Dieu. 10 minutes de prière, et puis c'est tout, tu baisses les... Vous ferez un test à la maison comme ça, hein ? Personne, hein, personne ne sera avec vous. Hein. Mettez un chronomètre et puis vous faites comme ça. Et on verra, hein, on fera le concours. Bah, à mon avis, oui, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je ne sais pas, on va commencer. Mais il a Aaron et Hur qui vont le soutenir. Et la Bible nous dit que quand ils élevaient les mains ensemble, parce qu'ils étaient soutenus, eh bien Josué était plus fort. La force de la prière, on en a parlé mardi soir. La force de l'intercession, la force là aussi de ce combat spirituel. Ce matin, frère, oui, nous sommes forts. Nous sommes forts dans la prière, nous sommes forts par la prière. Et nous voulons utiliser également cette belle arme. Hein, c'est Spurgeon disait ceci, entretenir une communion perpétuelle avec Jésus, c'est une chose qui donne de la santé à notre âme, la respiration de l'âme. Et ce matin, nous voulons dire, Seigneur, eh bien oui, je suis fort. Hein, c'est une image quand je lève les bras vers toi, quand je suis dans ces temps de prière, de communion avec toi, parce que tu es ma force et tu me remplis. Un autre passage, Ecclésias 7, 19, nous dit ceci. La sagesse rendra le sage plus fort que 10 chefs présents dans une ville. La sagesse de Dieu. On vit tous des situations où humainement nous sommes coincés, nous sommes bloqués. Il n'y a rien à faire. On a beau chercher, réfléchir, de demander conseil, c'est bloqué. Et là, il nous faut la sagesse de Dieu. Il nous faut sa sagesse pour qu'il nous inspire, pour qu'il nous conduise, pour qu'il nous renouvelle, pour que face à des situations qui nous bousculent, eh bien, nous ayons sa sagesse. C'est une parole, c'est une conduite. Dieu peut même se servir d'autres personnes pour nous conduire dans sa sagesse. Ça, c'est la sagesse de Dieu, hein. Mais ce matin, eh bien, nous sommes forts également par la sagesse de Dieu. Et la Bible nous dit, si nous manquons de sagesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben Jacques dit de la demander, de la demander. Et on la recevra. Et peut-être que ce matin, des bien-aimés ont besoin de sagesse dans un domaine particulier. Eh bien, demandons-la à Dieu et nous serons forts. Et nous serons forts parce qu'il nous conduira, parce qu'il saura nous accorder ce dont nous avons besoin. 2 Corinthiens 12, 9, 10, c'est vraiment le paradoxe biblique là, hein, puisque c'est Paul qui rappelle ceci. Il dit, bien, c'est quand je suis faible que je suis... Ça, c'est incompréhensible, hein. C'est incompréhensible. Dans ma faiblesse, Seigneur, tu te glorifies. Dans ma faiblesse, tu fortifies. Et ce matin, eh bien, il nous faut reconnaître nos faiblesses. Il nous faut reconnaître nos limites. Il nous faut reconnaître que là, eh bien, effectivement, on n'a pas toute la science, peut-être même qu'on a mal fait les choses. Mais c'est dans ces moments, dans cette faiblesse, eh bien, que Dieu va nous accorder sa force. Amen. C'est dans ma faiblesse, hein, voilà, vous connaissez également ce texte, mais c'est quand je suis faible, eh bien, que je suis fort. Et puis, une dernière pensée, hein, pour être fort ce matin, il y a la prière, la sagesse, il y a la faiblesse, et puis 1 Jean 2, 14 et 2 Timothée 3, 16, eh bien, nous parle de la parole de Dieu. Là, il s'adresse, cette parole, aux jeunes hommes. Hein, vous êtes forts, vous avez vaincu le malin parce que la parole de Dieu habite en vous. Et ce matin également, bien, oui, ton Dieu ordonne que tu sois fort, ton Dieu ordonne que tu te plonges dans ta parole, dans ma parole, dans sa parole. Ton Dieu ordonne, eh bien, que tu te nourrisses de sa parole. Et c'est de cette manière que nous serons forts. C'est de cette manière que nous pourrons résister après avoir tout surmonté. Hein, tout à l'heure, en principe, vous allez manger un bon repas, c'est peut-être le dimanche un peu amélioré, où la famille est réunie, et c'est une bonne chose. Et c'est là où on profite quand même, parce que si on passe et on saute plusieurs repas, on va avoir quelques soucis. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. L'Éternel est ma force. Amen. Il a précipité Pharaon, surtout sa cavalerie, et puis ses soldats dans la mer Rouge, et puis il m'a sorti. Et ce matin, eh bien, en confessant, en proclamant que l'Éternel est fort, nous allumons la lumière. Amen. Nous allumons la lumière et nous proclamons la parole du Seigneur. Le psaume 118, on fait quelques lectures, hein, ce matin, mais je crois que c'est bien aussi de pouvoir remettre les choses dans leur contexte. Le psaume 118 nous dit ceci, on a commencé à le lire ce matin. Et il dit ceci, « Louez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. » Qu'Israël le dise. Oui, sa bonté dure éternellement. Que la famille d'Aaron le dise. Oui, sa bonté dure éternellement. Que ceux qui craignent l'Éternel le disent. Oui, sa bonté dure éternellement. Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a délivré. L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes ? L'Éternel est mon secours, et je regarde mes ennemis en face. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans les grands. Toutes les nations m'entouraient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'entouraient, elles m'encerclaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'entouraient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu de ronce. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me bousculais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force. Le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe, de délivrance s'élèvent dans les tentes des justes. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. La main droite de l'Éternel est élevée. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai ce que l'Éternel a fait. L'Éternel m'a corrigé. Il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle que les justes entrent. Je te loue parce que tu m'as répondu, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisent est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre de l'Éternel. C'est un prodige à nos yeux. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Éternel, accorde donc le salut. Éternel, donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, il nous éclaire. Attachez la victime de la fête avec des liens aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai. Mon Dieu, je proclamerai ta grandeur. Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Amen. Le sujet de mes louanges. Il est le sujet de mes louanges. L'auteur ici est inconnu. Ce n'est pas David, ce n'est pas Corée, ni un autre. On va dire que c'est un parfait inconnu qui, malgré tout, est tout aussi inspiré eh bien, que David, que Corée, que tous ces autres psaumes, ces 150 psaumes qu'on nous a laissés et qui sont inspirés. C'est aussi une réalité pour chacun d'entre nous ce matin que nous sommes appelés à vivre, quelles que soient nos origines, notre culture, notre niveau scolaire, social, intellectuel, spirituel, sommes tous appelés à allumer la lumière, à être inspirés et à confesser ceci, il est le sujet de mes louanges. Il est le sujet de mes louanges. Ce n'est pas l'apanage ou les choses particulières de certains, mais chacun d'entre nous, et cet homme qui écrit ce psaume, eh bien, est tout aussi inspiré que David et les autres. Ce psaume a autant de valeur, même si c'est un parfait inconnu. Et ce matin, qui que nous soyons, nous pouvons dire « L'Éternel est le sujet de mes louanges ». Et ici, le thème principal de ce psaume, c'est que sa bonté dure éternellement. C'est que sa bonté dure éternellement. Là, ce n'est pas un vocabulaire guerrier, comme on l'a vu tout à l'heure, mais c'est un psaume de louange, d'adoration. Hein, il y a un chant qui nous dit « Dieu est bon en tout temps ». Dieu est bon en tout temps. Alors, qu'est-ce que la bonté ? La bonté, c'est une qualité morale qui porte à faire le bien, à être bon pour les autres. Et ce psaume, il comprend quelques éléments de la bonté de notre Dieu. Par exemple, au verset 5, il est dit ceci, le verset 5, « Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a délivré. » Ça fait partie de sa bonté. Hein, quand il y a un proverbe qui dit « Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. » Voilà. Alors des fois, il y en a qui sont sourds, mais ça les arrange. Et finalement, ils ne répondent pas aux sollicitations. « Quoi, tu m'as appelé ? Je n'ai pas entendu. Je ne savais pas. Hein, je n'ai pas compris. » Mais il nous est dit ici que l'Éternel répond, il délivre. C'est au travers de sa bonté. C'est en lien avec sa bonté. Et là encore, ce matin, on pourrait tous venir ici et puis donner des témoignages de la bonté de Dieu, de ce qu'il a accompli, de ce qu'il a fait dans nos vies. Parce qu'il a entendu, notre Dieu est bon. Verset 6, un autre effet de sa bonté. L'Éternel est pour moi. Je n'ai peur de rien. Il est pour moi. Littéralement, il est en ma faveur. On en est des bénéficiaires. Et là, il y a un beau verset que nous connaissons. Hein. On va le lire. C'est dans Romains 8. Et 31, et voilà ce qu'il est dit ce matin pour que nous puissions proclamer la bonté de l'Éternel. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc si Dieu est pour nous ? Qui sera contre nous ? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous, comme ne nous accordera-t-il pas tout avec lui ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. On en parlait mardi, nous sommes au bénéfice, chacun d'entre nous, de la prière de Jésus. Je veux dire, qui sommes-nous pour ? Et pourtant, la bonté de l'Éternel se manifeste, l'Éternel est pour moi, il est en ma faveur. Jésus-Christ intercède pour nous, il intercède pour nous. Verset 7 fait partie de la bonté de l'Éternel. L'Éternel est mon secours. L'Éternel est mon secours. Le secours, ça évoque une situation d'urgence où je suis pris de court, où je ne peux rien faire, où je suis dépassé par les événements. Et là encore, eh bien, ce matin, on pourrait tous venir confesser. Oui, l'Éternel est bon et il a été mon secours. Verset 18, il est dit, l'Éternel m'a corrigé. Je ne sais pas quelle est la version, m'a châtié, m'a éduqué, peu importe, c'est la même pensée, mais il ne m'a pas livré à la mort. La bonté de l'Éternel, de notre Dieu, c'est une source aussi d'équilibre dans son éducation, dans la manière aussi où il nous redresse, où il nous corrige, comme un tuteur qu'on va planter à côté d'un arbre, un jeune arbre, pour qu'il pousse bien droit. Et c'est peut-être là aussi parfois paradoxal, où ça peut nous choquer, mais Dieu veille aussi à ne pas nous anéantir. Il nous éduque, il nous corrige, il nous redresse, il assure une éducation personnalisée, adaptée à chacun, juste, mais aussi épanouissante. Juste et épanouissante. Job va dire ceci, 5:17, « Heureux l'homme que Dieu éduque, parce que ne méprise pas son éducation. » Et le Proverbe 3:12, « L'Éternel corrige celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Et ce matin, oui, l'éducation, la correction, le redressement de notre Dieu fait partie de sa bonté. Amen. Il nous aime, il est bon avec nous. Alors, quand il voit qu'on part un peu de travers, il nous redresse. Et ça fait partie également de sa bonté. Et ce matin, je veux dire, eh bien, l'Éternel est le sujet de mes louanges. Et dans Jean 8:12, pour le verset 27, l'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Et il nous éclaire. Il y a un autre chant qui dit « Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous ? Que ferions-nous dans ce monde ?» Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Oui, ce matin, allumons la lumière et confessons, proclamons « L'Éternel est le sujet de mes louanges. » Amen. Et quand cette louange, quand cette proclamation monte jusque dans le ciel, dans l'éternité, bien Dieu se réjouit. Les anges de Dieu qui siègent devant lui et qui s'abaissent, qui se prosternent devant sa sainteté, entendent cette louange. L'Éternel est le sujet de mes louanges. Nous allumons la lumière lorsque nous proclamons cette vérité. Et puis le dernier texte, c'est dans Ésaïe 12. J'aime bien également ce texte. On était avec la Samaritaine la semaine dernière, vous en souvenez. Et il y a un lien ici, bien sûr, avec ce texte aussi, puisqu'il est question bien des sources du salut, de puiser avec joie aux sources du salut. Et ici, dans Ésaïe 12, versets 1 à 6, il est dit ceci. « Ce jour-là, tu diras, je te célèbre, Éternel, tu as été irrité contre moi, mais ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Dieu est mon sauveur. Je serai plein de confiance, je n'aurai plus peur, car l'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut, et vous direz ce jour-là, célébrez l'Éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples, rappelez combien son nom est grand. Chantez l'Éternel, il a fait des choses magnifiques, qu'on les fasse connaître sur toute la terre. Poussez des cris de joie, exprime ton allégresse, habitante de Sion. En effet, il est grand, au milieu de toi, le Saint d'Israël. Amen. C'est lui qui m'a sauvé. Et pour illustrer cette parole ici, bien, on a l'image bien sûr de cette eau, de puiser de l'eau aux sources du salut avec joie. Et ça nous rappelle, je le disais tout à l'heure, bien, cette Samaritaine qui va venir, c'est une femme dont la vie est détruite, on le sait bien, on connaît tous l'histoire. Et pourtant, Jésus va se mettre à sa portée pour lui permettre là aussi bien, de vivre quelque chose de particulier. Dans la Bible, il existe plusieurs images concernant le salut. Et chacune d'entre elles, eh bien, nous parle quelque chose d'important. La première image, plusieurs fois, il est question du rocher de mon salut. Le rocher de mon salut. Bien sûr, ça nous parle de stabilité, ça nous parle de solidité, mais il y a aussi un autre texte. Alors, on pourrait en débattre, hein. Mais il y a quand même ce texte qui m'interpelle, c'est dans 1 Corinthiens 10, 3, 4. Concernant justement ce rocher, voilà ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 10, versets 3 à 4. Ils ont tous mangé, question du peuple d'Israël, la même nourriture spirituelle. Donc on comprend que c'est la manne. Mais il est dit en plus ceci après, ils ont bu à la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Alors, il y a deux possibilités. On peut dire effectivement, alors c'est un mystère, mais ils ont mangé de la manne, ça c'est écrit, on comprend bien sûr, d'origine spirituelle. Mais ici, il y a comme un mystère qui est dévoilé. Il est question là aussi de ce qu'ils buvaient, de ce qu'ils buvaient. Alors, on pourrait dire effectivement, Christ était là pour conduire le peuple de Dieu. Et puis, à chaque fois qu'ils se sont arrêtés, eh bien, Dieu pourvoyait bien sûr à leur alimentation. C'était pas une dizaine de personnes, hein. C'était des centaines de milliers de personnes avec du bétail certainement. Imaginez. À mon avis, c'était, je ne sais pas, moi, il fallait vraiment quand même des sources. Alors, il y a eu des sources, etc., Dieu pourvoyait, mais peut-être, et certains le croient aussi, libre à vous de croire, il pourrait aussi s'agir d'un rocher, un vrai rocher. Alors là, on est dans le miracle, hein, je ne l'explique pas, qui suivait le peuple d'Israël et qui l'alimentait constamment, comme un fleuve qui devait couler. Je ne sais pas, moi, faites au moins une heure de marche en plein désert. Simplement une heure de marche. Vous allez voir si vous n'avez pas besoin d'abreuver le bétail ou vous-même. Et on pourrait penser eh bien, qu'effectivement, Christ, un rocher eh bien, duquel coulait de l'eau en abondance pour abreuver tout ce peuple. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour nous, ce matin, Jésus a dit cette parole dans Jean 7, « Si quelqu'un a soif, eh bien, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et il sera désaltéré, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Amen. Le rocher de notre salut. Oui, ça nous parle de stabilité, ça nous parle là aussi, bien sûr, d'éternité, mais ça nous parle aussi, bien, où nous sommes abreuvés. Notre soif est étanchée. Et ce matin, nous allons dire, Seigneur, bien, oui, c'est toi qui me sauves. Hein, quand je suis dans le désert, quand je vis cette épreuve, eh bien, tu m'alimentes malgré tout. Et je peux m'abreuver à tes sources. Il est question également dans l'Écriture du bouclier de mon salut. Du bouclier de mon salut. Le Proverbe 2,7, il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Et Paul va reprendre l'image, il va l'associer, lui, au bouclier de la foi. Mais pour moi, ce n'est pas dérangeant, hein, le salut par la foi. Et là, on se souvient tous de ce témoignage de notre frère Daniel Satori, hein, vous en souvenez, lorsqu'il était en Allemagne à cause du Covid, branché de partout, et les médecins ne donnaient pas cher de sa vie. Et il a eu ce songe, où il se voyait eh bien, à la merci de l'ennemi, qui voulait détruire sa foi, qui tirait des traits enflammés sur lui, mais au moment où les traits allaient le détruire, allaient détruire sa foi, eh bien les boucliers de la prière de l'Église se levaient pour le protéger, pour le garder. Et je crois que ce matin également pour nous, eh bien nous pouvons dire, Seigneur, tu es le bouclier de mon salut. Combien de traits enflammés ce bouclier a éteint, nous a protégés, alors qu'on n'était même pas conscient, eh bien des œuvres sataniques de l'adversaire sur nos vies. Le diable cherche à nous détruire. Mais ce matin, bien, Seigneur, tu m'as sauvé. C'est lui qui m'a sauvé. Et c'est lui, ce matin encore, qui tient ce bouclier du salut de la foi pour nous garder, pour nous protéger, dont nous pouvons également nous servir. Amen. Et puis, il y a encore deux pensées. On conclura avec cette parole quand même que je reciterai ce matin. La prière de Jésus. Simon, Simon. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, pour vous détruire, mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Amen. Quelle grâce, le bouclier de la foi. Et puis, une autre image, c'est le vêtement du salut. un vêtement du salut. Alors, il y a plusieurs textes dans l'Écriture, bien sûr, mais il y a surtout peut-être cette parabole du fils prodigue. Il part et puis il rentre en lui-même. Il n'a plus d'argent, il sent mauvais, ses beaux habits sont déchirés. Et lorsque le père le voit arriver, eh bien, il y a trois choses qu'il va lui donner, bien sûr, un anneau, des souliers. Mais d'abord, il est dit ceci, eh bien, le plus beau des habits. Ce n'est pas l'habit qui venait de travail, là, ou qui venait juste de laver, qui était à moitié sec. Le plus beau des habits, vêtements du salut, de restauration. Et ce matin, bien, nous vivons également cette belle réalité. Apocalypse 3.5, le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant les anges. Amen. Nous serons reconnus par ce vêtement du salut que le Seigneur nous a accordé. Amen. Et ce matin, nous voulons dire, Seigneur, bien, oui, l'Éternel m'a sauvé, le vêtement du salut. Et puis je termine, dernière image, c'est le casque du salut. On connaît également, bien sûr, cette image dans Éphésiens 6, 17, le casque qui protège la tête, nos pensées, qui protège là aussi bien ce qu'il y a de vital en nous. Et Philippiens, par exemple, dira bien que tout ce qui est vertueux, etc., etc., soit l'objet de vos pensées. De garder nos pensées en Jésus-Christ, dans sa parole. Alors ce matin, on conclut, l'Éternel est ma force, il est le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Et à chaque fois qu'on proclame cette parole, eh bien, on allume la lumière, peut-être même sans s'en rendre compte. Mais il y a quelque chose qui se passe dans les cieux, dans le domaine spirituel, parce qu'en confessant cela, on ne confesse pas les ténèbres. On ne confesse pas le défaitisme, même si on vit une épreuve, même si on vit un moment difficile, eh bien ce que je veux proclamer ce matin, c'est que l'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé. Et ça peut être une proclamation de chaque jour, de chaque instant. Elle est très courte cette proclamation, mais à chaque fois, eh bien, j'allume la lumière. Rappelons-nous la première parole de Dieu dans Genèse, vous rappelez? C'est laquelle? Oui, et qu'est-ce que va dire Dieu? Première parole. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Et puis j'ai noté une des dernières paroles dans le livre de l'Apocalypse. On peut la lire aussi, c'est pareil, c'est dans le dernier chapitre, c'est pratiquement dans les derniers versets. Et on voit comment la parole de Dieu est entourée, est animée, est supportée par cette lumière, parce que la parole de Dieu est lumière. Mais il est dit ceci, donc, Apocalypse 22, verset 5, « Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et régneront au siècle des siècles. » Amen. Quelle parole pour nous ce matin, hein, d'avoir cette espérance, eh bien, que dans l'éternité, eh bien, Dieu va rayonner, va éclairer, et que nous serons ainsi dans sa lumière éternelle. On n'aura plus besoin d'allumer la lumière là-haut. Il n'y aura pas de ténèbres. Il n'y aura pas de ténèbres. Tout sera clarté, pureté, gloire, sainteté, etc. Tout ce qui nous dépasse. Et voilà à quoi nous sommes appelés dès ici-bas, allumer cette lumière. Alors on termine par 1 Jean 1,5, c'est un dernier verset, mais que ce matin, bien, nous puissions confesser cette belle parole qu'on le retrouve dans trois textes. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Amen. C'est lui qui m'a sauvé. 1 Jean nous dit ceci, chapitre 1er, versets 5 à 7, 1 Jean 1, 5-7. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en commun avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Que le Seigneur ce matin réjouisse nos cœurs, et que nous puissions réellement proclamer son nom allumer cette lumière. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Amen. Et ce temps de Sainte-Cène que nous allons vivre ensemble, eh bien c'est un temps où on va proclamer que l'Éternel est notre force, qu'il est le sujet de nos louanges et que c'est lui qui nous a sauvés au travers de l'œuvre de la croix. Et ainsi, bien nous allons marcher et nous continuerons à marcher avec lui dans cette lumière. Amen. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ta parole. Merci pour le nom de Jésus-Christ, qui est le nom élevé au-dessus de tout autre nom. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin, et nous voulons proclamer, nous voulons peut-être apprendre à nouveau à proclamer, parce que parfois, pour toutes sortes de raisons, eh bien, nous avons oublié d'allumer la lumière, ou nous n'y pensons pas, ou nous sommes comme tétanisés. Seigneur, avec mes frères et sœurs, ce matin, nous voulons allumer cette lumière de ta parole qui éclaire nos cœurs et nous voulons proclamer avec force, avec action de grâce, l'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Amen. Que ce soit une proclamation dans la vie de mes bien-aimés ce matin, qui vivent des moments difficiles, qui vivent des moments peut-être même angoissants, au nom de Jésus-Christ, que cette proclamation, que cette vérité, que ces paroles soient les paroles de vie, que ces paroles, Seigneur, renouvellent l'espérance, la foi, et que ces paroles, Seigneur, soient une source de bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Amen.